Vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Jean-Pierre Diques, assisté de Magali, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, dimanche 2 juin 2019, de midi à 13h30 et réalisé par Adrien. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Bonjour, vous écoutez sur Radio Courtoisie le libre journal de l'espérance de Jean-Pierre Diques, assisté de Dominique Tassot et de Magali. Nous recevons aujourd'hui M. Alain Didier, écrivain, auteur dramatique, et M. Éric Lemaître, enseignant, auteur d'un livre « La déconstruction de l'homme », et nous allons parler du transhumanisme.
Voilà, chers amis, bonjour, merci d'écouter cette émission. Merci à nos intervenants qui, sur des points de vue complètement différents, sur des abords et un éclairage complètement différent, on va nous permettre de discuter de la question du transhumanisme. Alors, tous nos auditeurs savent que j'ai écrit un certain nombre de livres là-dessus et que c'est plutôt mon jardin. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tant nos deux amis, l'un que l'autre, avait une vue qui était différente de la mienne. La mienne, le transhumanisme, je l'ai vu au travers essentiellement des découvertes scientifiques et des découvertes médicales, aussi sur le plan religieux en tant que catholique et chrétien, et on va pouvoir discuter d'abord complètement différent. D'un côté, cher monsieur Lemaître, Éric Lemaître, vous l'abordez sur le plan sociétal et sur le plan de l'être en lui-même, l'être dans l'état profond. Et notre autre ami, lui, Alain Didier, voit ça comme le poète qu'il est, qui essaye de faire une synthèse entre la destinée de l'homme et ce que nous amènera ou nous amènera pas le christianisme. Alors je ne sais pas par quel sujet commencer. Notre ami, merci d'être là, notre ami Tassot, qui est fidèle au poste, qui a déjà de la sueur sur le front, oui, mais à pas, force de penser, c'est ça qui
le... bien que, vous savez, c'est l'homme... gagnera son pain à la sueur de son front. Donc, il ne faut pas s'étonner que les glandes sudoripares du front soient particulièrement développées. Et certainement que ça...
cerveau qui chauffe, alors c'est ça.
C'est un très grand nombre de fonctions. Mais je voulais que Éric Lemaître se présente
bien sûr.
Il vient de sortir un livre qui est quand même assez épais. Il y a 490 pages. Alors, c'est un livre écrit avec des collaborateurs, dont le nom apparaît, mais qu'il a dirigé. Et donc, dans ce livre, il y a un assez grand nombre de points de vue différents. Mais ce qui semble intéressant, c'est que vous êtes enseignant dans une école d'ingénieurs à Reims. Et au fond, l'école d'ingénieurs, c'est un endroit où c'est un poste d'observation très intéressant pour pressentir les évolutions de la société.
Oui, alors tout à fait. Dominique, vous avez tout à fait raison de souligner cette dimension. Alors en tant qu'enseignant, je dirais en proximité avec une réalité, celle du monde industriel, puisque je suis enseignant dans une école d'ingénieurs, donc une école d'ingénieurs qui œuvre sur la conception packaging, mais sur d'autres registres.
Pas de mots anglais.
Alors, pas de mots anglais sur la conception des emballages.
Il y a un cochon ici et le tarif, c'est 5 euros. actuellement. Alors, je mais je peux le doubler si je veux.
Oui, donc je vais être un gros contributeur.
Oui, oui.
Et en effet, c'est vrai que l'école s'appelle l'École nationale supérieure des élèves ingénieurs en emballage. Donc effectivement, le mot packaging n'existe pas en soi. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, à la fois en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que professionnel, parce que je suis socio-économiste, je me suis intéressé de très près à la demande finalement des commandes publiques et des marchés que j'ai contractés. J'étais l'observateur des mutations industrielles qui se sont opérées, je dirais, dans notre milieu économique. Et l'autre aspect m'a conduit finalement à écrire, c'est face à ces mutations, comment l'homme les vit. Et nous avons une mutation qui est extrêmement importante, qui est celle de l'ère numérique, qui est en train de bouleverser les données sur la vie sociale, les données sur les rapports aux autres. Et c'est cette mutation-là qui a fait l'objet de toute ma réflexion que j'ai portée dans une écriture sur ce livre qui s'appelle La déconstruction.
Vous êtes un peu le Attali bis, mais...
L'anti-Attali.
Et alors, Alain Didier,
c'est plutôt le change d'Attali, mais dans la tradition classique.
Avec un H.
Ah oui, oui, oui.
Oui, alors bien entendu, oui, alors il y a plusieurs manières de concevoir le métier de poète ou d'auteur dramatique. On peut se réfugier dans les circonvolutions de son imagination et se garder d'entrer dans les débats, je dirais, philosophiques, religieux, scientifiques qui secouent l'humanité. Bon, c'est une conception. Beaucoup de spectateurs de théâtre ne visent qu'à se divertir, car tout le reste est tellement pénible à supporter que seul pratiquement le théâtre de divertissement rencontre encore en France un public significatif. Dans tous les autres cas, s'il s'agit de monter une pièce de théâtre, et je me suis forcément posé le problème pour les miennes, théâtre sérieux, théâtre exigeant, eh bien, vous n'avez que votre carnet de chèques personnel et vous n'avez rien d'autre, puisque le politiquement correct qui distribue les subventions, ceux qui nous dirigent, ne les verse pas à n'importe qui et n'importe comment, mais à des démolisseurs et à des gens extrêmement dangereux, des terroristes intellectuels. Enfin, cela ne m'empêche pas d'écrire pour le théâtre. En 50 ans, j'ai quand même écrit 15 pièces qui, par chance, vont pouvoir être éditées définitivement. Enfin, elles sont maintenant présentées de manière unitaire par l'édition de l'Harmattan, qui est une édition intégrale. Donc, on va pouvoir au moins lire, sinon voir jouer mes pièces.
Et oui, parce que moi, je me souviens avoir connu des textes renéotés, des tapuscrits, etc. Ce qui avait un certain charme, d'ailleurs.
Bien sûr. Et nous les avons lus ensemble, enfin en public, devant de hautes assemblées, notamment de scientifiques, car en effet, il serait tout à fait ridicule d'imaginer une cloison étanche entre les scientifiques et les littéraires, car en fait, nous parlons tous du même sujet, c'est-à-dire de la réalité humaine, et en tout cas le aspect qu'elle se présente. Et il s'agit bien de jeter des ponts entre des compétences, des gens qui ont une formation différente, parce que tout converge. La vérité est unique. Nous savons au niveau théologique à quel niveau elle se situe, et tout cela se décline dans toutes les disciplines de l'art, de la science, de la connaissance humaine.
D'accord, bon, bien. Alors, comment vous voyez l'évolution du transhumanisme?
Peut-être faudrait définir ce que c'est que les mots, parce que oui. Là, en lisant ce livre, on voit des mots comme l'homme augmenté, l'homme cyborg, le transhumanisme. Oui. Alors, vous faites une différence entre justement l'homme cyborg et l'homme augmenté, parce que j'ai un peu tendance à considérer que tout ça, c'est du bluff. On met des grands mots, et puis si vous voulez, le guerrier qui a un arc et une flèche, c'est un homme augmenté. Évidemment, il peut atteindre plus loin que le bras.
Tout à fait.
Donc, en quoi est-ce que de mettre des ismes en arabe, ça ajoute par rapport au fait qu'il y a évidemment des progrès techniques qui augmentent les capacités?
Oui, mais alors on peut dire ça pour tout. J'ai une voiture, j'ai un briquet, j'ai...
Absolument.
Pas un briquet.
Oui, absolument. Pourquoi inventer un mot? Pourquoi inventer un mot?
Bon, voilà. Alors, je vais vous dire, moi, ma conviction, m'étant penché sur cette affaire-là depuis une douzaine d'années, une quinzaine d'années, moi je suis arrivé à une conclusion, c'est que ces gens-là qui se disent transhumanistes sont des faiseurs d'illusions. Attention, sur un double manière, dans deux voies. Sur le plan scientifique, on nous raconte qu'on va faire ceci, qu'on va faire cela, que le cerveau, les gènes, l'ectogénèse, le machin, tout ça, c'est de la, comme dit mon petit-fils, c'est de la daube. Bon. Oui. Par contre, peut en parler, je peux démonter un certain nombre de choses qui nous sont affirmées sur le plan scientifique et qui ne tiennent pas debout. Quand vous parliez de Darwin tout à l'heure, il y a 1054 savants qui viennent de dire que les théories de Darwin étaient fausses. Bon, ça devrait faire la première des journaux, parce que le darwinisme mène la totalité de la pensée contemporaine. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le darwinisme détruit Dieu. Et en fait, ça n'a pas de sens de vouloir se prendre pour Dieu. Le God syndrome, le syndrome de Dieu, ça n'a pas de sens. Bon, mais on en reparlera. Oui. Alors, par contre, sur le plan de la société et de la transformation des êtres humains par le transhumanisme, ça n'est pas anodin et c'est une partie que je connais pas beaucoup, même pas du tout.
Je voudrais en préambule et pour répondre à toutes ces questions que vous formulez, vous rappelez une citation d'Adolphe Huxley qui préfaçait sa deuxième édition du livre « Le meilleur des mondes ». Et je trouve que cette citation est tout à fait éclairante pour planter le décor concernant le sujet qui nous donne, je dirais, ce rendez-vous-là. Pour reprendre son expression, disait ceci, que la prochaine révolution ne sera pas d'ordre sociétal, mais la révolution s'effectuera dans la chair et dans l'âme de l'homme. Au fond, c'est l'être humain qui est impacté par cette dimension du transhumanisme, puisqu'il s'agit de rêver ni plus ni moins comme un thaumaturge l'amélioration de l'homme, l'augmentation, la performance de l'homme au travers d'une transformation génétique ou bien à travers l'hybridation avec la machine. Donc on parle de machinisation de l'être humain. C'est cette dimension-là.
Oui, je résume. Ou bien on transforme les robots en hommes, ou bien on transforme les hommes en robots. C'est ça qui nous présente actuellement.
Absolument.
Oui.
Il y a un philosophe urbaniste, Paul Tirolio, qui parlait des robots, mais qui disait à propos des robots, ce n'est pas des robots qu'il faut avoir peur, mais c'est du robot avalé. Il parlait donc de la capacité que l'homme aurait demain d'inoculer des microparticules pour transformer sa propre matière. Puisque le transhumanisme considère que finalement l'être humain en tant que corps, âme, esprit, c'est une ineptie, ça n'existe pas. L'être humain est réduit qu'à une matière et qu'au fond, qu'avec cette matière-là, on peut la muter, on peut la transformer, on peut lui donner, je dirais...
Oui, mais à partir de quel moment on n'aura plus affaire à un homme, vous comprenez, à force de changer des pièces et...
C'est lorsque la vie intérieure disparaît.
Vous vouliez dire quelque chose, là, il me semblait, non ? Je me trompe ?
Mais justement, c'est l'existence de la nature humaine qui est en cause, puisque nos adversaires nient qu'il y ait une nature humaine.
Oui,
donc
mais
ils se réservent de la traiter comme un matériau. Pour eux, enfin, les matérialistes les plus conséquents, le cerveau, l'esprit n'est que l'état le plus élevé de la matière, donc c'est une matière qu'on peut indéfiniment modeler comme de la glaise par tous les procédés, j'irais, simplistes ou au contraire très élaborés, qu'une science plus ou moins... déviante pourrait proposer.
Et d'ailleurs, ils vont jusqu'à nier le principe de l'âme, alors qu'on dit, bon, ça c'est un objet inanimé ou animé, le principe de l'âme, qui dans le fond est inexplicable, scientifique, la force d'animation,
c'est-à-dire que
Saint Thomas...
Oui, mais c'est justement le concept d'âme en
en tant que tel, il est évidemment rejeté par la science moderne qui est foncièrement matérialiste et qui a inventé l'idée que la vie, c'est des molécules un peu grandes qui s'organisent, mais ils n'ont pas l'idée qu'il y a un saut qualitatif complet entre l'être vivant et puis les molécules organiques qu'il compose. C'est-à-dire qu'un mur, ça n'est pas qu'un tas de briques, c'est des briques dans un certain ordre, dans une... dans l'être humain, c'est plus qu'un tas de briques, c'est-à-dire que c'est plus que des molécules et de l'ordre. Il y a effectivement un principe immatériel, insaisissable, mais dont les transhumanistes, finalement, nient l'existence, puisqu'ils imaginent qu'on peut, à nuit, transformer le corps humain comme un Lego, où on peut débloquer... Alors, là, justement, vous avez une objection très, très intéressante à cette idée dans le livre, en faisant référence à Richard Smollett.
Oui.
Hein. Alors, c'est la notion, les gros doigts et les doigts collants. Alors, c'est-à-dire que vous montrez que même si on arrive à envoyer des micro-robots dans la circulation sanguine pour essayer d'attraper les virus, etc., y a une limite dans cette miniaturisation, et ces images sont très parlantes. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que sont ces limites?
Alors, je vais rebondir sur le propos parce que je viens d'acheter récemment un livre qui a été rédigé par Mario Beauregard, chercheur en neurosciences, et pour répondre à cette réflexion qui est celle effectivement écrite dans ce livre La déconstruction de l'homme, Mario Beauregard dit ceci: qu'en dépit de déclarations fracassantes dans les médias, grand public, les nouvelles découvertes n'ont pas permis d'expliquer les concepts basiques tels que la conscience, l'esprit, l'en-soi et le libre arbitre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire tout à la dimension de la matière.
Pourtant, je crois qu'il y a un savant qui s'appelle Eccles, je crois qu'il y a eu le prix Nobel il y a une quinzaine d'années.
Oui, Eccles, oui.
Dominique, hein, oui. Qui a eu le prix Nobel parce qu'il expliquait la conscience.
Oui.
Bon, mais...
Alors, quand je parle de la conscience...
Apprendre avec des pincettes.
Je veux évoquer, puisque ça a été le préambule pour la présentation de cette émission, vous parliez de la vie intérieure et qu'en effet, c'était l'objet, le sujet et le cœur de ce livre et de ma réflexion. Au fond, je dirais, le transhumanisme, quand on réduit tout à la matière, c'est anéantir, je dirais, la dimension sensible et la vie intérieure. C'est Bertrand Vergely, qui est aussi un philosophe qui a pensé le transhumanisme, qui songeait à cette capacité d'aliéner la dimension de l'être intérieur, de la vie générée intérieure. C'est tout ce qui est de l'ordre de la sensibilité, du rapport émotif, du rapport à l'autre, du rapport à autrui. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout nous amène à une forme de virtualité, à une distanciation de l'autre, à ne pas rencontrer l'autre. Et c'est toute la question et tout l'enjeu aujourd'hui, finalement, que je pourrais interroger, interpeller le transhumaniste qui rêve la vie prolongée, qui rêve de combattre la mort, mais à quoi lui sert-il de vivre 2 fois 1000 ans s'il ne rencontre pas au bout du bout le bonheur, s'il ne rencontre pas au bout du bout la vie intérieure et la dimension intérieure qui fait que c'est un être à part entière. Et ça, c'est toute la question d'un transhumanisme qui réduit tout à une valeur monétisée ou à une valeur dématérialisée. Voilà ce à quoi nous sommes aujourd'hui réduits.
Moi, je crois que la plus grosse erreur qui est transmise par les transhumanismes, ça rejoint ce que vous dites, à savoir que ils nous promènent l'immortalité. Alors on dit, peut-être que Magali, ça lui plairait de vivre de manière immortelle, mais ça n'a pas de sens. Je veux dire, même scientifiquement, ça n'a pas de sens. Un professeur Toussaint qui est chargé de prévoir l'avenir de l'homme, je ne sais plus son titre officiel, et il s'est battu avec Laurent Alexandre, qui est le pape de la du transhumanisme par intermédiaire du quotidien du médecin, et ce professeur Toussaint disait mais c'est impossible, nous vivons dans un monde avec des changements de temps, des changements de nourriture, des intoxications, des nanoparticules, on ne sait même pas ce que c'est, et l'homme est prévu pour vivre 120 ans, et c'est marqué dans la Bible, tel quel. Bon, 120 ans, et les Américains, qui ont toujours un mot à dire, ont dit, oui, ça doit être à peu près ça, mais peut-être un peu moins. 118 ans. Bien. Donc, d'emblée, on part sur une notion fausse, qui est celle de l'immortalité. Nous sommes soumis à un certain nombre de choses, le temps qui passe, le temps qu'il fait, la nourriture, etc. Et immanquablement, on n'atteindra pas l'immortalité. Et d'emblée, on part sur un mensonge, vous voyez.
Oui, oui. Alors, eux, les transhumanistes, parlent de prolonger la vie. Ils ont modernisé le vocabulaire, ils l'ont un peu fait évoluer. Ils ne parlent plus d'éternité, mais de prolonger indéfiniment la vie. Ça ressemble à peu près à la même chose que le rêve d'éternité.
C'est une vaste blague.
Mais c'est une vaste blague, dans le sens où c'est la promesse de la Calypso à Ulysse, qui promet à Ulysse l'éternité, mais un jour est comme un autre pour Ulysse. Et il rêve d'Ithaque. Il rêve finalement le moment éphémère de se retrouver avec Pénélope et son fils Télémaque, de se retrouver finalement dans la vraie dimension de la vie intérieure, de cette dimension qui fait que quand la vie est éphémère, eh bien tout prend du sens. Au fond, pour moi, le transhumanisme nous interroge sur le sens de la vie. Quel est le sens de la vie de prolonger indéfiniment?
Oui, c'est
son
ça.
Existence.
C'est une très bonne question que je n'ai pas encore abordée, je vais voir ça, parce que je pense que je vais quand même faire un livre sur le transhumanisme. Alors, vous vouliez dire quelque chose, Didier.
Je ne me rappelle plus la référence exacte, mais il y a un grand écrivain ou philosophe qui, il y a 100 ans, a dit « On n'a rien compris à la vie moderne si on ne comprend pas qu'elle est un combat intense contre toute vie intérieure. »
C'est Bernanos.
C'est Bernanos.
Ah, c'est Bernanos.
J'hésite avec Saint-Exupéry, c'est Bernanos.
Oui, c'est ça.
On est en plein dedans.
On est en plein dedans. On est en plein dedans. Bon.
Oui. Et donc, je peux ajouter effectivement, dans une de mes pièces qui traite de l'Apocalypse, Méphistophélès propose à Faust, puisque j'ai un petit peu revisité le mythe, tout simplement de fabriquer l'éternité terrestre.
Oui, c'est ça, oui, tout à fait, mais...
Adam et Ève avaient été dotés de l'éternité, mais c'était un don superflu, c'était un don supplémentaire de Dieu qui n'était pas consubstantiel à leur nature. Et ils ont perdu l'éternité à cause du péché originel, pour retomber, si l'on veut, mais sur la nature de base, avec en plus une faute originelle que le Christ a corrigée. Bon, l'homme, semble-t-il, d'après le projet de Dieu, n'était pas destiné à être éternel, immortel, immortel, oui, pas éternel, et immortel au ciel, car la probation terrestre, Eden, c'est ce que j'ai traité aussi dans une de mes pièces, c'était une sorte d'examen très, très rapide, si je puis dire, de passage, avant d'offrir à l'homme encore mieux auprès de Dieu. Et précisément, Satan, en faisant perdre confiance à l'homme en Dieu, a provoqué la chute, la tentation, etc. Et donc, toute l'espèce humaine a été vouée à se perfectionner et à arriver au but, qui est toujours, bien sûr, l'éternité avec Dieu au ciel, à travers des tribulations aggravées, en quelque sorte. Bon, donc là, tout ça, alors, et là, évidemment, ce donné est totalement gommé, puisque, encore une fois, les transhumanistes, justement, les plus déterminés, dans la tradition de Spinoza, considèrent que l'homme, chaque individu est un atome de divinité, que la matière est éternelle, il n'y a pas eu de créateur, surtout pas, auquel on devrait rendre hommage et obéir ou avoir de la reconnaissance, surtout pas. Donc c'est un appel indéfini à l'orgueil luciférien, humain, etc.
Alors, si je peux vous avez cité Faust, il dit à Méphistophélès, le mode de procréation ancien, nous le déclarons vaine plaisanterie. Voilà. C'est-à-dire que Faust dit, ah ben oui, on va faire un homme nouveau.
Le golem.
Voilà, et on retombe sur le golem, sur Frankenstein, mais aussi sur, je crois que vous aviez même cité Prométhée, il y a Icare, il y en a toute une série comme ça qui ont voulu se prendre pour Dieu, finalement.
Oui, c'est... Le transhumanisme, c'est un rêve enfoui, c'est un rêve latent qui est là depuis l'aube de l'humanité, depuis le commencement.
Voilà, nous rappelons à nos auditeurs qui nous rejoindraient qu'ils écoutent Radio Courtoisie, le libre journal de Lumière de l'Espérance de Jean-Pierre Dicques, assisté de Dominique Tasso et de Magali. Nous parlons aujourd'hui du transhumanisme avec deux invités, Monsieur Alain Didier, qui est écrivain, auteur dramatique, et Monsieur Éric Lemaître, qui est enseignant et qui a écrit un livre, La déconstruction de l'homme.
Alors, oui.
Ouais, non, je voulais simplement,
Dominique Tasso,
dans la suite de ce qui vient d'être dit, c'est que, enfin, d'une certaine façon, le transhumanisme, c'est une reprise de la tentation primordiale. Parce que, qu'avait dit la formule tentatrice, c'est vous serez comme des dieux. Réalité, Adam et Ève étaient créés à l'image de Dieu. Donc, ils étaient déjà comme des dieux. Donc, la différence, c'est qu'ils vont devenir par eux-mêmes ce qu'ils étaient déjà par création. Et dans cette espèce de vie prolongée ou d'éternité du transhumanisme, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on vous propose une éternité alors que vous êtes déjà un être éternel, doué d'une âme éternelle, etc. Donc on a... c'est du mensonge habile. Ça consiste à mentir en ne disant que des choses vraies, ce qui est, d'une certaine façon, le fin du mensonge. Et là, on est... on ne sort pas, comme vous le dites d'ailleurs très bien dans le livre, en faisant référence à tous ces mythes anciens, on ne sort pas du drame foncier de l'homme.
Même dans l'histoire, ça revient tout le temps. L'idée de faire un homme nouveau, un être nouveau, c'est la prétention de la Révolution, c'est la prétention des nazis avec la philosophie nietzschéenne. Nous allons créer un homme nouveau. C'est l'homme générique de Marx. Mais on pourrait se laisser séduire par le transhumanisme. Le transhumanisme est très attrayant parce que, évidemment, les nazis, ça rigolait pas, quoi. On allait faire cet homme nouveau, on allait le faire nous-mêmes. Ouais. L'homme allait le faire dans les laboratoires. Tandis que là, on dit, vous savez, on va guérir toutes les maladies. Et puis on va vous prolonger, on va vous donner la possibilité de faire des exploits extraordinaires, etc. Et en plus, en prime, vous aurez l'immortalité. Alors, vous souhaitez répondre à
ça? Oui, alors, dans la philosophie de Nietzsche, on est dans la nature même de l'homme. C'est l'homme qui se surpasse, qui se dépasse, mais tout est fondé dans sa propre nature. Et là, Nietzsche n'évoquait pas la technique comme recours pour performer, rendre perfectible l'être humain. Le transhumanisme, là, c'est un dépassement. C'est l'homme transcendant. C'est l'homme prométhéen. Et je faisais référence, et j'y songeais lorsque je vous entendez l'évoquer. Je pensais à Günther Anders qui met en exergue la honte prométhéenne. C'est-à-dire que lorsque l'homme devient l'égal des instruments qu'il crée et se voit même dépassé et humilié et abaissé par l'instrument qu'il crée. D'ailleurs, je crée le golem, d'accord, c'est le golem mécanique aujourd'hui, c'est le robot humanisé, ou bien demain le cyborg, c'est-à-dire l'humain machinisé, et cette création-là, cette créature-là, va l'humilier, en quelque sorte. Il est l'auteur d'une créature qui le dépasse.
C'est Frankenstein. Oui, mais Alain Didier, vous voulez dire quelque chose? Parce que le sujet...
Je vais me référer à « Vous serez comme des dieux » de Gustave Thibon, 1959. Pièce philosophique, bien sûr. Où Gustave Thibon imagine que la mort est vaincue par la science. Donc, c'est fait. Tous les hommes deviennent immortels sur Terre, et qu'un petit groupe de personnes, donc qui ont une formation chrétienne, enfin qui ont un lien avec la divinité, décident de choisir la mort pour retrouver Dieu.
Oui, alors, est-ce que c'est, ça peut se voir comme ça?
C'est
pas évident.
Non, c'est pas évident du tout. Oui. C'est la pièce de Thibon, qui est magnifiquement écrite, oui. comme Thibon savait le faire, qui est une pièce pas très théâtrale à mon sens, parce que faisant assez peu de part à la réalité de la psychologie humaine, une pièce philosophique. Bon, mais en somme, tout cela n'est pas vraiment très neuf. On est du moins dans la trajectoire du grand dessein satanique, quoi. D'asservir l'humanité.
C'est tout à fait ça.
Satan est homicide depuis le commencement. Oui. Il n'a aucun scrupule par rapport à l'homme qu'il envie. Parce qu'il a, en tant qu'ange, il a estimé qu'il était moins bien servi par Dieu que l'homme. Donc il y a une lutte à mort entre les mauvais anges, enfin, entre les Satan et l'humanité. Donc, et l'orgueil étant une passion facile, enfin relativement facile à mobiliser, même quand on est dans l'extrême, comme nous en parlons là, qui paraît absolument démesuré, enfin, l'homme qui s'égale à Dieu, qui devient Dieu, qui...
Par la science aussi, par la science.
Tous les moyens.
Oui, mais c'est dérisoire. Voilà. Moi, les exemples, je pourrais les donner, que ça soit en matière de génétique, que ça soit en matière de science cognitive, comme on dit, mais on est en train de nous faire une gigantesque tromperie là-dessus. Notre ami ici m'avait envoyé un texte à propos de
l'ectogénèse.
De l'ectogénèse. Bon, alors l'ectogénèse, qu'est-ce que c'est? C'est il y a eu quand il y avait comment il s'appelait un dénommé Michel qui recevait les gens pour discuter sur la question de l'homosexualité. Et Madame Agazinski, qui est la femme de Jospin, s'était opposée à cette perspective-là. Alors elle s'est un peu disputée avec Michel, et à un moment elle dit, de toute façon, Michel, vous pouvez être certain que bientôt on créera des hommes en dehors du corps humain. Bon, et ça c'est l'ectogène. Madame Agazinski lui a répondu, et elle avait raison, monsieur, c'est impossible. Elle s'est levée et elle a pris la porte. Bon, cet exemple-là, mais je pourrais vous en donner plein, qu'on nous fait miroiter des choses qui n'existent pas. L'article sur l'histoire de la chèvre, d'une chèvre qui a été développée dans ce qu'ils appellent un biobag, c'est-à-dire un truc en plastique. Bon, c'est un mensonge, parce que vous le ressortez dans ça, mais on en a parlé, on ressort ça, on trouve ça sur Internet il y a 6-7 ans, et ça n'a pas été au-delà. Pourquoi? Il y avait deux trucs. D'abord, c'était pas une chèvre qui avait été créée par fécondation in vitro, mais c'était une chèvre prématurée. Et en plus, quand elle est sortie du biobag, deux jours après, elle était morte. Alors, c'est pas le tout d'élever des êtres humains comme on voit dans les premières pages de Aldous Huxley, avec la visite du laboratoire où on développe les enfants depuis le stade embryonnaire jusqu'au stade où ils sont récupérables par les couveuses. Tout ça, c'est des illusions, ça n'existe pas. Il y a eu une Madame Liu qui était à l'université, Hélène Ung Liu, qui travaillait à l'université de Cornell. Dans un premier temps, Bush, le deuxième, là, celui qui est W. Bush, a fait casser son laboratoire, et puis après ça, elle s'y est remise sur des souris, et elle a arrêté parce qu'elle y arrivait pas. Et elle a arrêté il y a 5 ans ou 6 ans. Donc on nous revoilà repartis à zéro, du moment zéro de la création humaine, l'embryon, on sait faire des fécondations in vitro, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la PMA, et ça, c'est tout, ça s'arrête là. On peut le mettre dans une femme pour essayer de la rendre enceinte, c'est pas très facile, mais on réussit, puis ça s'arrête là. Ça rejoint votre propos, parce que il existe des relations entre le fœtus dans le corps de sa femme, de sa mère, et il existe des relations que l'on ne connaît pas du tout.
Relations utérines.
Voilà, des relations, oui, intra-utérines.
Intra-utérines.
Mais c'est pareil sur le plan de la physiologie, c'est-à-dire de ce qui circule entre ces deux êtres humains. Par exemple, on dit il faut caresser l'enfant, il faut lui parler. C'est une très très bonne chose. Mais déjà, c'est un humain, contrairement à ce que l'on nous dit, et qu'on a le droit de le tuer par l'avortement. Il se crée déjà des relations. Et ça, ces relations, on les connaît pas. Alors, aller créer des relations avec un enfant qui sera dans un bocal, ça n'a pas de sens. Vous voyez ?
Oui, absolument.
C'est pour répondre à notre ami qui m'a...
Je pense que ça serait intéressant de faire... Bon, il y a aujourd'hui, évidemment, pas mal de fécondation in vitro, etc. Mais il serait intéressant, avec le recul, de faire une étude comparative entre une population significative de ces enfants et une population équivalente d'enfants ayant été, étant nés classiquement, pour voir s'il n'y a pas une action psychologique, des différences psychologiques significatives.
Sur le plan organique, ça a été fait, il y a un certain nombre de maladies. On vient de découvrir, par exemple, c'est tout récent, que ces enfants nés de cette manière-là pouvaient avoir des troubles au niveau de la moelle épinière. Dans le dos. Bon, c'est tout récent, hein. C'est assez infime comme proportion, mais il y a un petit peu de ça, un petit peu d'atteinte oculaire chorio-rétinite, un peu de forme de cancer de ceci ou de cela. Mais sur le plan de notre ami le maître, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est une bonne question, mon cher.
Oui, absolument.
Je pensais au philosophe que l'on appelait le prince des érudits, Pic de la Mirandole, qui vantait l'autodétermination, l'homme autodéterminé. On est en plein dedans aujourd'hui, je dirais, avec toutes les conceptions que l'on se fait de l'être humain, libre finalement de son corps, détaché de son corps. Et vous parliez d'ectogénèse tout à l'heure. Eh bien, l'ectogénèse, c'est l'aboutissement et le projet finalement de mettre fin à la différenciation homme-femme. C'est-à-dire que finalement, ce qui fait l'altérité et la spécificité de la femme, c'est d'être mère. Alors, on ne réduit pas la femme uniquement à cette fonction, à cette dimension-là. Elle est complémentaire à l'homme, mais le projet transhumaniste qui est de rendre le corps libre, non limité, et d'échapper à l'encerclement de sa finitude, c'est un peu ce projet-là.
De son sexe, on va
dire. Libérer de son
sexe. On va se libérer, on apprend.
Finalement, j'étais si bien, quand j'étais dans mon corps d'androgyne, c'était le corps d'Adam, finalement, qui n'était pas un corps sexué. Et puis, finalement, il y a eu un manque. Un manque, c'est-à-dire le manque de l'altérité, le manque de la complémentarité, le manque relationnel. Et le transhumanisme nous emmène dans cet âge d'or, dans un manque de relation à l'autre. C'est évident de vivre cette différence et cette complémentarité qui font que finalement nous vivons en société. Et vous savez, il y a Jacques Généreux qui est économiste qui parlait de dissociété, c'est-à-dire de désolidariser. On se désolidarise les uns avec les autres. Et c'est ce monde qu'il appelle la dissociété que l'on fabrique, en quelque sorte.
Vous vouliez dire quelque chose, non ? Non ?
Je confirme absolument, tout le démontre, c'est l'atomisation sociale et humaine, enfin, le déboisement social, n'est-ce pas, avec, et qui a pour but de faire des hommes, des femmes qui sont créés par Dieu, responsables, etc., des atomes indéfiniment exploitables. Que ce soit par des régimes totalitaires, que ce soit par des industriels prométhéens, etc. On est toujours dans le même... Alors, en ce qui me concerne, dans ma pièce sur l'Apocalypse, j'ai revisité le thème de Faust, le mythe de Faust, et on aboutit à cela, c'est-à-dire on a créé des clones, par l'ectogénèse, justement, mais de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qu'on a créé, au juste ? Donc, il apparaît nécessaire, à un moment donné, d'insuffler une âme à cette matière-là. Alors on voit débarquer sur la scène un clone avec qui on va, par un procédé mécanique, insuffler une âme. Et donc tout explose. Et c'est le début de l'apocalypse, c'est le début de la fin. C'est l'abomination de la désolation dans le corps de l'homme, qui peut être une explication, une traduction du sanctuaire. Le sanctuaire peut être évidemment un Saint-Pierre de Rome, avec un certain nombre de scandales que nous connaissons éventuellement, mais ça peut être aussi le corps de l'homme considéré comme le temple de l'esprit. Et quand le Christ parle du temple qu'il va reconstruire en trois jours, c'est de son corps qu'il parle, donc il peut y avoir une analogie. Mmh. Donc on peut aussi imaginer l'abomination de la désolation dans ce contexte.
Oui.
Nous rappelons à nos auditeurs qu'ils écoutent Radio Courtoisie, le libre journal de l'espérance de Jean-Pierre Diques, assisté de Dominique Tasso et de Magali. Nous recevons aujourd'hui M. Alain Didier, qui est écrivain, auteur dramatique, et M. Éric Lemaître, qui est enseignant et auteur d'un livre intitulé « La déconstruction de l'homme ». Et nous avons pour thème d'émission le transhumanisme.
Alors, vous-même, si vous voulez... vous savez, ce sont les NBIC, hein, nanotechnologie, biologie, bio-ingénierie,
sciences de l'information,
sciences cognitives, il en manque un.
L'information, l'EI.
L'EI, c'est...
sciences de l'information.
Sciences de l'information.
L'information, bon. Et la génétique se trouve à la pointe de cela. Alors là aussi, elle est en train d'exploser.
Absolument.
Parce qu'on s'est aperçu que la génétique telle qu'on l'a concevée de manière fixiste à partir des 46 chromosomes qui donnent telle information. Déjà là-dedans, c'est très difficile. Parce que vous vous souvenez qu'il y a une Française qui s'appelle Emmanuelle Charpentier qui a trouvé le moyen de couper les gènes. Mais c'est très compliqué parce qu'il y a des relations entre les gènes qu'on ne connaît pas. Donc, vous vous trouvez face à un gigantesque jeu d'échecs et en déplaçant une pièce ou en supprimant une pièce, vous risquez de faire dégringoler tout le jeu complètement. Si vous reprendre Mais ces gens-là, qui sont transhumanistes, ils doivent quand même le savoir et s'en rendre compte. Et avant qu'on règle ça... Alors là, la deuxième chose, c'est qu'on vient de découvrir que tout autour du noyau cellulaire où se trouvent les gènes, il y a de l'ADN. Et avant-hier, c'est tout récent, on vient de découvrir dans cet ADN, l'ADN mitochondrial, les mitochondries, c'est des petits organites qui sont dans le cytoplasme, c'est-à-dire autour du noyau. Eh bien, il ne se détruit pas lui-même. Une cellule se détruit, mais il reste toujours les mitochondries. Alors avec ça, on peut évoluer, on peut regarder l'évolution des mitochondries, par exemple, en prenant la poussière qu'il y a tout autour des pharaons, et on peut l'étudier, et on peut l'étudier par rapport aux hommes actuels et voir l'évolution. Alors, il y a 1054. Ça, on ne vous en parle pas de ces trucs-là. Vous pouvez trouver, il y a 1054, tous professeurs, docteurs en biologie, docteurs en génétique, etc., qui ont dit qu'il faut revoir la théorie de Darwin. Or, précisément, l'idée des transhumanistes, elle est très simple. Il y a l'évolution darwinienne, et nous, transhumanistes, nous allons continuer cette évolution. Cette évolution darwinienne s'est faite toute seule et nous allons la prendre à main. Seulement maintenant, il n'y a plus d'évolution darwinienne. Voilà. Alors, mais, ce que je voulais vous demander, c'est, selon vous, ces transformations qui peuvent être amenées par les gènes, est-ce qu'on a une idée globale de l'effet que ça peut avoir sur le corps au sens où vous l'entendez, oui.
Alors, moi, je ne suis pas scientifique, donc je ne peux pas répondre sur les effets et les conséquences de ce fameux ciseau que vous décriviez, le CRISPR.
Ah oui, ça, d'accord, mais voilà. Ça, c'est technique pure, oui.
Les effets,
CRISPR, c'est un œuf, oui.
Les effets peuvent être terribles, cauchemardesques, sur la transformation, finalement, de l'être humain, parce qu'on se prend, tout simplement, à la dimension incarnée telle que l'homme est. Et donc, muter l'homme, je ne sais ce que... pourrait augurer demain l'avenir et l'humanité en tant que telle, dans sa création. Donc on est en train de là de bricoler un jeu de Lego que l'on réduit à un jeu finalement. Et le fait de bricoler ce Lego, ce génome humain, je ne sais quel monstre nous pourrions enfanter. Et donc là, il y a toute une réflexion qu'il nous convient d'avoir, d'être, d'être extrêmement prudent avec la façon dont, dont on approche, on appréhende l'être humain qui doit être respectable. Je pensais à cette dimension que je voulais vous partager. C'est un échange que j'ai eu dernièrement avec l'un de mes amis. Qu'est-ce qu'il y a de plus étonnant dans l'univers ? Dans l'univers et dans toute sa globalité. Et dans cet univers, dans toute sa globalité, on pourrait répondre les supernovas, les trous noirs, ou bien l'infiniment petit, la dimension quantique. Mais enfin, ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est ce qu'il y a derrière vos yeux.
Oui, oui, oui.
C'est la conscience de l'être humain. C'est ce cerveau qui est une galaxie de cellules. Qui est ça, c'est la dimension extraordinaire. Et les gens, je dirais, ne s'étonnent plus aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans l'étonnement, je dirais, d'être conscience, d'être une conscience. Et je trouve que, quelque part, il faut se révolter contre cet univers qui est en train, finalement, d'anéantir cette part de l'âme, cette part d'être qui est exceptionnelle. Ce qu'il y a de plus extraordinaire dans toute la création, c'est bien ce qu'il y a derrière nos yeux.
Très bien.
Nous allons passer une petite annonce avant de poursuivre l'émission.
Dimanche 16 juin à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 16 juin de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils seront heureux de vous dédicacer leurs œuvres. À 11h30, conférence du professeur Paul De Vels de l'Institut Mensonge, mensonge. À 13h30, remise du prix Grand-Duc de la réinformation. À 14h, intervention de Marion Maréchal, les jeunes, la formation, la lecture. À 17h30, conférence de Jean-Paul Gourevitch, immigration et islamisation. Retenez, dimanche 16 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la Porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Estrecher, métro Porte de Champéret. Entrée 5€, gratuit sur présentation de la carte d'auditeur ou du reçu de cotisation, et pour les personnes de moins de 26 ans.
Voilà, alors je rappelle nos deux invités, Alain Didier et Éric Lemaître. Je voudrais vous rappeler que si vous pouvez venir à la fête de Radio Courtoisie, vous êtes inscrit à mon stand ou à notre stand, et pour présenter vos œuvres et surtout discuter avec nos amis de Radio Courtoisie, c'est toujours extrêmement fécond.
Oui, d'ailleurs, je pense que les auditeurs doivent savoir qu'ils rencontreront et Alain Didier et Éric Lemaître à la fête de la Courtoisie.
Et vous-même.
Le 16 juin.
Bon. Alors, ce que vous dites quand même, c'est que la rencontre de l'être, elle passe par le cerveau. Vous avez dit, derrière les yeux, vous avez dit. Bon. Mais je vais vous dire une chose, c'est que le cerveau, c'est 100 milliards de cellules.
Absolument.
Dont on ne connaît pas les relations. J'en discutais avec un ami qui est neurologue, et c'est pas un second couteau, parce que il a fondé toute une série de cliniques dans le nord de la France, de cliniques psychiatriques, au point de dépasser par le nombre de lits qu'il y a dans le privé, dans le public, pardon. Bon, donc c'est un homme qui a réfléchi beaucoup, avec lequel je discute beaucoup, et qui dit, mais le cerveau, on connaît rien du tout sur le cerveau. On croit qu'on connaît, mais on ne connaît rien. On n'est qu'à l'aube de la connaissance du cerveau. Et les nanotechnologies, c'est pareil. Vous pensez que c'est un milliardième de mètre. Comment voulez-vous maîtriser cela? Et comment voulez-vous maîtriser 100 milliards de cellules? Ça va prendre des décennies. Alors quand les transhumanistes nous racontent ça, je pense que les gens se lasseront de leur discours à un moment. Parce que ça... Bon, évidemment, les gens sont très impressionnés.
Ils se lasseront de leur infantilisme archaïque.
Oui, exactement. Non, mais les gens sont très impressionnés parce qu'on dit, ah bah oui, on va changer un bras, on peut mettre des jambes artificielles et on pourra courir encore plus vite et encore plus longtemps. Ça, c'est l'augmenté des transhumanistes. Bon, mais tout ça, ça ne change pas l'être humain dans sa profondeur. Bon. Ce qu'il y a, c'est qu'ils disent qu'ils mettront des puces dans le cerveau des gens. Tout ça, c'est pas fait. Hein. C'est pas encore fait.
Alors, il y a des projets. Oui. Il y a des projets, puisqu'on est dans le domaine de la nanotechnologie. Et aujourd'hui, le rêve, c'est d'inoculer, c'est d'implémenter des microstructures à l'intérieur de soi pour nous relier. Parce qu'on est dans l'ère aussi, on ne l'a pas évoqué, on est aussi dans l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, c'est un vrai fantasme qui se dessine autour de l'intelligence artificielle, parce qu'en réalité, elle n'est pas intelligente. Ce n'est que du calcul. C'est un système de calcul performant. Effectivement, quand vous utilisez votre machine à calculer, le score en termes de temps pour vous apporter la réponse sera beaucoup plus rapide que celle que vous pourriez vous produire, à moins d'avoir des facultés cognitives extrêmement élevées qui vous donnent immédiatement la réponse. Mais on est dans un monde où l'intelligence artificielle, donc qui est un support de calcul, extraordinairement avance, et l'on rêve de pouvoir connecter l'être humain et le cerveau humain à Wikipédia, par exemple.
Pour étonner
mes amis, pour vous étonner ici, je vous donne des références, je les produis instantanément, simultanément. Vous dites, quelle culture générale, c'est extraordinaire, il est un surhumain. Mais en réalité, je ne suis pas érudit, je serai connecté à d'autres machines qui souffleront, je dirais, ou inspireront les informations que je vous communiquerai.
Voilà. Spielberg, le cinéaste, là, était allé à la Silicon Valley pour voir un petit peu des trucages, trouver des trucages, et on lui a dit, oh ben, on va greffer Google dans la tête des gens, vous voyez.
Oui,
bon, c'est pas fait, hein. je peux vous dire
on n'en est pas loin, mais ça fait encore partie.
On en est très loin. Ouais.
Comme je l'ai cité tout à l'heure, c'était le propos de Jacques Testard, l'infantilisme archaïque, mais c'est de l'infantilisme. Ce sont des rêves de gosses qui sont, nourris par le rêve de la monétisation de ce monde, parce qu'il ne faut pas non plus se faire aucune illusion. Ce rêve-là, c'est de la marchandisation, c'est la volonté finalement de faire de la finance. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Il ne faut pas se leurrer, ni tromper les gens. C'est-à-dire que ce rêve n'est pas pour l'homme, c'est pour
l'argent.
Être utile à l'homme. c'est pour se faire un fric monstrueux. Pardonnez-moi d'utiliser un terme aussi du pognon de dingue. Voilà.
Du pognon de dingue, mais ça dépasse l'imagination, parce que ce qu'on appelle les GAFA, Google, Facebook, Amazon, ont fait des profits boursiers l'année dernière, chacun de 1000 milliards.
Voilà.
Bon, alors, j'ai regardé le budget de la France. À côté de ça, c'est 387 milliards. Et rien que c'était Amazon, il avait fait 1000 milliards de profits. Enfin, vous voyez, ce sont eux les maîtres du monde. Attention.
Alors,
hein.
Oui, et ça augure d'une nouvelle civilisation. Nous entrons dans une nouvelle civilisation. C'est une ère civilisationnelle qui est en train de se dessiner, qui va renverser et remettre en question nos institutions classiques. Parce que dès lors que s'il y a ce passage vers l'âge d'or, je n'y crois pas un seul instant, je crois à la capacité de résilience qu'il y a en chacun d'entre nous, de ne pas supporter, je dirais, la domination et la domestication par tout cet appareillage technique. Mais l'enjeu pour les transhumanistes, c'est de réveiller notre civilisation et de mettre fin à l'intermédiation politique, aux institutions telles qu'elles existent. C'est la civilisation gouvernée par la machine. C'est-à-dire que l'homme, selon Jacques Ellul, devient l'objet de la machine. C'est-à-dire que nous ne sommes plus, je dirais, dans une dimension de dominer les outils, de dominer les objets, mais les objets font de nous, c'est leurs objets.
Mais alors, ça n'est même plus une, il ne faudrait pas utiliser le mot civilisation, parce que civilisation, c'est, ça vient de civis, c'est la cité.
Absolument.
Donc,
oui,
c'est des hommes qui ont des rapports entre eux, et la société, alors on peut dire la société qu'il est question de créer, qui sera mécanisée, qui dominera l'homme par ses, enfin, tous ces procédés de, en particulier de contrôle, hein. N'est pas une civilisation.
Non. Vous avez raison de réutiliser, de me corriger sur le terme civilisationnel, si l'on reprend l'étymologie exacte. C'est une société, oui, c'est une forme d'égrégore, une ruche mécanisée. Je parlais de termitière, mais il y a plein de termitières, pardon, mais dans la termitière, il y a plein de cavités et plein de vides.
Alors, on a une paire de questions.
On a quelques messages d'auditeurs de Radio Courtoisie. Attention à ne pas confondre l'éternité et l'immortalité. L'immortalité est dans le temps et l'éternité est hors du temps.
Bonne remarque.
L'auditeur fait une très bonne remarque.
Ouais. Un autre auditeur, toujours sur la même thématique. Vous nous dites que l'immortalité n'est pas possible, mais Jésus a dit le contraire. En ce temps-là, il n'y a rien de ce qui est caché qui ne sera mis à jour et la mort sera vaincue en dernier. Cette immortalité existera bien.
L'intervenant précédent qui a répondu, je crois.
Oui. Alors, on peut apporter un complément d'information. Quand on parle de l'immortalité rêvée par les transhumanistes, ce n'est pas l'immortalité promise par Jésus. On est dans un autre ordre. C'est-à-dire que là, il s'agit de sauver et de racheter notre âme et de restaurer notre corps en Jésus-Christ. Il ne s'agit donc absolument pas de l'immortalité immanente rêvée par les transhumanistes qui se fait sans Dieu.
Oui, c'est pas l'immortalité du film Zardoz où on s'ennuie parce que...
Et c'est pas l'immortalité de la Calypso, un jour est comme un autre jour.
Voilà. Que pense notre théologien ?
Je ne suis pas théologien, mais je... Si vous voulez, de toute façon, les mots ont toujours la possibilité de les utiliser dans différents sens, mais les transhumanismes systématiquement utilisent les mots à côté. C'est-à-dire, quand ils en viennent au... quand on parle de... Parce qu'on parle de prolonger la vie, mais la vie en question n'est pas la vie. La vie est un don de Dieu, et ce que appelle la vie, c'est une agitation de cellules, c'est des mouvements dans le cytoplasme, c'est de la circulation sanguine dans le sang, et il s'imagine qu'on peut, parce qu'on peut décrire mécaniquement ces choses, on comprend ce qu'est la vie. Pour moi, par définition, rien ne peut être mécanique dans l'être vivant. Et je saute en l'air.
C'est l'animation. Alors
souvent, on parle des mécanismes vivants, etc. Mais à mon avis, c'est une erreur. Il faudrait dire processus. Mais ne pas employer le mot, parce que justement, la grande erreur des temps modernes, c'est d'avoir mécanisme. Alors ça commence à Descartes, d'ailleurs. Hein. C'est de l'homme-machine, de vouloir mécaniser l'homme. Mais dès le départ, c'est faux. C'est forcément faux, parce que le mécanique, justement, c'est le Lego. C'est les articulations. On le sait très bien qu'une des raisons pour lesquelles la génétique ou la manipulation génétique aura des limites, c'est la pléiotropie des gènes. C'est-à-dire que chaque gène a plusieurs finalités. Donc quand on retire un gène ou qu'on rajoute un gène, on ne fait pas que modifier la fonction visée par ce gène, mais parce qu'il en a d'autres. Donc forcément, il y a une répercussion. C'est comme les effets secondaires en médicaments. C'est-à-dire, l'être vivant, justement, est conçu de telle sorte que quoi qu'on fasse, il y a toujours des effets secondaires.
Mais il y a un gars qui s'appelait, c'était avant la Révolution, au début du XVIIIe siècle, Onfroy de la Mettrie, qui avait écrit un livre qui s'appelle L'homme-machine et qui est mort d'une indigestion parce qu'il avait mangé trop de pâté.
Oui. Voilà. De truffes.
Oh, là, il était riche. Je pensais que vous vouliez dire quelque chose. Non, sur cette question-là, oui. Bon.
Oui, vous avez raison de rappeler la figure de Julien Auffroy de La Mettrie, qui effectivement était le premier à imaginer que l'homme n'est qu'une mécanique. Et c'est un organe en quelque sorte qui est déterminé. Et finalement, nous promouvons plutôt l'idée que l'homme est libre et qu'il n'est pas déterminé. Quand j'utilise le terme de liberté, c'est pas de n'importe quelle liberté. Il s'agit d'une liberté qui reconnaît cette transcendance. Parce que l'homme n'est libre qu'à partir du moment où il reconnaît cette transcendance. Sinon, il est effectivement déterminé par un environnement dont il devient le sujet. Et l'inverse du christianisme, c'est bien de nous apporter cette dimension spirituelle.
Tout à fait. Et moi, c'est ce qui m'étonne un petit peu, c'est ces gens-là. La question de la transcendance, ça leur vient même pas à l'esprit. C'est pas dans leur registre de réflexion. Ça n'existe pas. Mais moi, je me dis, quand on regarde le ciel avec ses milliards d'astres, une fleur, quand on voit une fleur, on s'émerveille. On dit, mais qui est le créateur, quoi? Ça vient bien de quelque part. Non, ça les effleure pas.
C'est vrai que l'homme aurait tendance à s'extasier, je dirais, devant ses objets. Alors que la création, qui est l'objet d'une complexité infinie, il ne s'en émerveille pas. Je trouve triste, finalement, que l'on ne soit plus dans ce contact et dans cette relation d'étonnement, je dirais, à ce qui nous entoure, ce qui nous environne. On est environné d'urbanisme, de technicité, de technologie, on est fasciné par ça et par cet air-là, alors que l'on ne s'émerveille plus, effectivement, devant la beauté d'une fleur, la beauté de la création, de la nature, tout simplement, je dirais, l'émerveillement qu'il y a autour de nous.
Mais ça annonce justement une stérilisation croissante de la science. Oui. C'est-à-dire qu'on est évidemment on est sur la lancée d'un certain nombre de grandes découvertes scientifiques fondamentales qu'on exploite, mais on ne fait plus de découvertes fondamentales. Et ça, c'est en particulier justement parce que c'est Platon qui disait la science commence par l'étonnement. Donc si on tarit la faculté d'étonnement, on va forcément tarir l'invention, l'inventivité. L'homme qui invente, c'est l'homme vrai. C'est pas le cyborg. Alors évidemment, on est censé maintenant faire des logiciels qui vont engendrer d'autres logiciels. Enfin,
c'est déjà fait.
Déjà l'auto-apprentissage et la faculté de donner effectivement à ces logiciels la faculté de créer d'autres logiciels. Enfin,
c'est déjà fait. Il y a des robots qui ont créé entre eux un langage,
oui, langage
que l'on n'a pas pu
saisir.
C'était peut-être un langage qui ne voulait rien dire.
Et alors le résultat des courses, que s'est-il passé?
Oui. Rien.
Bon. S'il n'y a pas de communication possible et intelligible et rendue intelligible, tout cet univers-là nous échappe et ça fait partie de la futilité, encore une fois.
Alors, l'idée de dire qu'on va mettre un cerveau dans un robot me semble tout à fait farfelu. Ça ne se fera jamais sur le plan anatomique. Par contre, on peut craindre qu'on trafique le cerveau de manière à changer les hommes. Oui. C'est ce qu'Hitler avait déjà essayé de faire à cette époque-là.
Oui. Il y a quand même des prothèses pilotées par le cerveau.
Ah, tout à fait, oui.
Donc ça, c'est...
Oui, tout à fait. Actuellement, c'est pour le bien de l'homme. Par exemple, les parkinsoniens que l'on voit, on leur dispose une puce qui est au niveau des noyaux gris du cerveau, qui excite les noyaux gris du cerveau. Et alors, vous voyez ces parkinsoniens complètement effondrés et rétractés sur eux-mêmes, et puis qui, d'un seul coup, se lèvent et se mettent à marcher. Mais ça, c'est le progrès. Ça, je suis le premier à dire qu'il faut le défendre, quoi. Ça, c'est bien. Mais là où ça nous pose problème, c'est quand on arrive à l'augmenter, à l'homme augmenté, ça n'est plus l'homme réparé, c'est l'homme augmenté, oui, oui, dont les capacités dépassent l'homme.
C'est...
Oui.
Je vous rejoins. Il faut faire la distinction, et c'est important pour nous de dire, nous ne sommes pas des technophobes. Je crois à la médecine réparatrice, mais en effet, il faut être prudent avec la médecine qui augmente et qui améliore et qui donne une mutation et qui engendre une mutation de l'être humain. C'est là où il nous faut être extrêmement prudent et réservé. Il faut réfléchir à une éthique et l'éthique de l'humain, c'est-à-dire respecter et prendre soin de l'homme, de revenir finalement au serment d'Hippocrate dans sa totalité, dans sa globalité, prendre soin de l'être humain. Et c'est fondamental. Le transhumanisme, c'est pas la prise en compte de l'être humain dans la dimension du soin à lui apporter, de soigner l'homme dans tout l'homme.
Alors vous dites justement que c'est une idéologie.
Oui.
Alors c'est plus loin. Ça va plus loin que ça. C'est une véritable religion. Les transhumanistes voient ça comme une religion. Et moi je vais encore plus loin. Pour moi c'est une secte. C'est une secte de gens qui veulent mettre la main sur le monde avec tous les dangers que ça peut représenter. La création d'une humanité à deux vitesses. Il y a les riches qui pourront se permettre toutes sortes de transformations et qui régneront sur une plèbe qui sera maintenue à regarder Roland Garros suivre la vie de Ribéry.
Pour répondre à Monsieur Tassot, à Dominique, il faut bien comprendre que le transhumanisme est une idéologie athée. Donc c'est une idéologie qui est foncièrement fondée sur le monisme, le matérialisme. Pour être clair et pour être simple, il n'y a pas trois substances, hein, il n'y a qu'une substance, comme je l'ai dit en préambule de l'entretien que nous avons, de la conversation que nous avons entre nous. L'enjeu est de comprendre qu'effectivement, c'est une idéologie qui a pour objet, finalement, de changer le récit de notre humanité et de faire disparaître l'idée de la mort qui a fondé la civilisation. C'est-à-dire que nous sommes confrontés à notre finitude et nous sommes confrontés à la connaissance de la mort. Et le fait de modifier le récit humain et de bouleverser finalement la civilisation en indiquant que maintenant nous allons prolonger la vie et qu'il faut modifier le récit passé qui a fondé finalement la façon dont on se gouverne, la façon dont on pense cette civilisation, c'est une idéologie dans ce sens. C'est-à-dire que l'enjeu est de déconstruire ce qui a fait finalement l'arrière-plan culturel. Nous sommes formés, forgés par une culture de la mort en quelque sorte. Et le transhumanisme dit non, maintenant on prolonge la vie indéfiniment. Et donc il faut absolument remettre en question tout ce récit qui nous a été lancé par le judéo-christianisme.
Oui, il n'y a pas de faute.
Alain Didier, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous expliquiez que la poésie, il y a de moins en moins de gens qui s'y intéressent, la littérature, de moins en moins de gens qui s'y intéressent, l'histoire elle va du côté de The Game of Thrones, et puis de moins en moins on apprend les moments fondamentaux de notre histoire. C'est dans le fond tout le travail que vous faites, c'est d'essayer de faire vivre cela.
Je ne suis pas professeur d'histoire.
Non, mais bien sûr.
Mais effectivement, je conçois une grande partie de mon théâtre qui est historique comme un moyen de faire accéder à des fondamentaux historiques des concitoyens qui ont été privés de cet apprentissage, puisqu'on a pulvérisé les chronologies. On a créé la confusion dans les esprits. Les hommes ne savent plus d'où ils viennent. Ils ne savent plus où ils sont, ce qu'ils sont. Et ils savent encore moins où ils vont. Donc on est en pleine désorientation. C'est diabolique, bien évidemment. Donc il faut remettre tout cela à l'endroit. Bon, la théologie, la science des sciences, la clé de voûte, bien entendu, c'est de savoir ce qu'est l'homme et la création de l'homme par Dieu, sa finitude, enfin la fin, le but de l'humanité. Donc c'est le premier tome de mon théâtre, Histoire du salut, trois pièces. Éden, Ponce Pilate, qui est la passion et la religion du Christ envers, n'est-ce pas? Et enfin, l'Apocalypse. Et ensuite, je décline les choses au plan historique. Un petit coup d'œil sur les croisades, l'aspect militaire, je viens de la chrétienté, en Palestine, sur notre sol avec les Cathares, les Albigeois, là, et la reconquête de l'Andalousie dès 1250, puisque Ferdinand d'Aragon, n'a achevé le travail à Grenade que 200 ans après Ferdinand de Castille, auquel Grenade, le royaume musulman de Grenade, payait tribut. Bon. Les croisades, ensuite les dynasties interrompues, bon, ce qui est advenu donc, de Louis XVII, puis l'affaire de Mayerling, l'éviction de Rodolphe, le fils de François-Joseph. Là. C'est probablement, non pas un double suicide sentimental, mais un assassinat soigneusement programmé. Je débarque dans le XXe siècle avec la fin des Romanov et donc la révolution russe, puis l'histoire moderne, c'est-à-dire le financement du communisme et du nazisme par justement les oligarques que nous avons évoqués tout à l'heure, grands financiers, etc. Et le dossier de Pie XII et les Juifs avec Eugénio, le vrai dossier, pas le vicaire évidemment, qui jouit encore aujourd'hui d'une certaine réputation, mais qui est une forgerie totale.
Oui, forgerie totale historique. Contre le christianisme.
Voilà, absolument. Voilà, un théâtre historique. Après, je publie aussi quelques pièces d'imaginaire de politique fiction qui sont sorties de mon imagination, je n'insiste pas. Et enfin, dernier tome, j'ai fait un tome technique sur la manière de monter une pièce de théâtre, sur l'ensemble de conférences que j'ai faites sur le théâtre, des articles de presse. Mais nous sommes en présence d'un public, enfin de nos concitoyens, qui ont perdu beaucoup de goût pour le théâtre, qui est finalement un parent pauvre par rapport au cinéma, par rapport à Internet.
Mais
par
la poésie,
les gens n'ont pas tellement d'argent
pour
aller le distribuer comme ça en spectacle. La plupart, ce que je disais au départ, c'est que la plupart de nos concitoyens conçoivent le théâtre, je dirais, comme un divertissement. Il faut aussi une place pour le théâtre de réflexion, le théâtre de, c'est ce que j'essaie de faire désespérément, puisque pour monter une pièce de théâtre tout seul, bon, c'est très simple. Moi, j'en ai fait l'expérience, puisque je produis actuellement une dernière pièce de théâtre, mais pas des miennes. Que si c'était les miennes, ça serait 3 ou 4 fois plus, et tout ça pour avoir 50 personnes dans une salle une fois. Ah. Donc c'est évidemment une danseuse qu'on ne s'offre pas, ça serait ridicule, c'est du narcissisme, c'est de la sottise. Moi ce que je veux, c'est des salles pleines. Et vous voyez bien que le préalable, c'est de redonner aux gens le goût du théâtre, et d'un théâtre de qualité, un théâtre exigeant, etc. Donc je suis en train de travailler au lancement d'un appel aux professionnels du spectacle pour justement revenir à un théâtre d'exigence, mais en sachant bien que d'abord trouver un public, ensuite trouver des fonds pour financer un spectacle, et là, une pièce, 8 personnages, dans un théâtre de 50 places, 10 représentations, ça coûte 40 000 euros. Il faut les sortir. Et vous savez d'avance que l'investissement sera perdu, enfin ce ne sera pas...
Ça ne sera pas rentable.
Voilà.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de l'espérance de Jean-Pierre Dicques, assisté de Dominique Tasso et de Magali. Nous parlons du transhumanisme.
On a des questions.
Avec M. Alain Didier, qui est écrivain et auteur dramatique, que nous venons d'entendre, et M. Éric Lemaître, qui est enseignant et auteur d'un livre, La déconstruction de l'homme. Alors, plusieurs messages d'auditeurs. Que je les prenne dans l'ordre. Ne suffit-il pas de penser dans le cinéma hollywoodien tel que La Guerre des Étoiles ou Bienvenue à Gattaca pour retrouver ce que vous dites?
Oui, je confirme.
Bon,
Le film que je connais le mieux, pour l'avoir exploré, pour l'avoir visualisé, c'est Bienvenue à Gattaca. Là, on est dans un univers aseptisé. C'est l'univers de la perfection génétique que l'on construit. Effectivement, on rentre dans cet univers, mais c'est la dimension de l'âme éteinte. Parce que si vous explorez le film et puis vous regardez sa construction, finalement, on est dans un univers absolument jaunâtre, aseptisé. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de différenciation.
Vous savez que Gattaca, c'est ATGC, enfin, c'est les...
Ah oui,
d'accord. ATGC, ce sont les...
Adényl, thymine,
les...
Les acides aminés.
Les acides aminés de base fait, de, du corps humain. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
Oui, ce qui est intéressant, c'est, c'est le décor aussi de Gattaca qui rappelle le génome humain. Voilà, il y a plein d'aspects ou d'illusions qui nous montrent que c'est un univers d'illusions. Il y a un illusionniste qui est derrière, qui construit et bâtit un monde qui n'est pas le réel.
Oui, je absolument, oui.
Les transhumanistes vont rencontrer et vont devoir rencontrer le réel. Oui.
Alors c'est ça. Alors actuellement, Google est c'est tentaculaire. Google, ça a racheté quasiment toutes les fabriques de robots, et Google va rassembler tout cela sous le nom de Alphabet. Alphabet. Ouais. Alors vous savez pourquoi nous sommes l'alpha, c'est-à-dire nous sommes comme Dieu, nous allons commencer les choses.
C'est le commencement.
Et bet, ça veut dire, en anglais, to bet, ça veut dire parier. Ouais. Alors, nous parions que nous allons créer un homme nouveau, une ère nouvelle, en quelque sorte. Oui, il y a encore des photos.
Plusieurs messages. Un auditeur, n'oubliez pas de remettre les choses à l'endroit. Il faudrait dire que je suis une créature de Dieu créée à son image, et c'est pour cela que je pense. On ne le dit jamais, y compris dans les églises.
Oui, bah, effectivement, c'est quelqu'un. Et une idée qui me venait en vous entendant tout à l'heure, c'est ce qui fait que l'histoire est aussi importante et maltraitée d'ailleurs aujourd'hui, c'est parce que l'histoire nous donne la conscience de notre individualité. Or, le monde du transhumanisme, il n'y a plus d'individus, il n'y a plus de différence entre Dupont et Durand.
On ne voit pas ce que pourrait être une pièce de théâtre transhumaniste. Parce que toute la psychologie, tout ce qui est le béaba du théâtre, on vole en éclats.
On va lire les...
Alors, quelques autres messages. Une auditrice. Il y a déjà des implantations de puces sous la peau. Qui sont des cartes magnétiques qui permettent diverses opérations.
Oui,
et dans la Bible, il est dit qu'un jour, on ne pourra ni vendre ni acheter sans être marqué du chiffre des bêtes.
Alors c'est ce que voulait faire Obama, que tous les citoyens américains soient marqués par une puce qui leur permettrait de rentrer directement là où ils travaillent, ouvrir la porte des toilettes, que sais-je. Et... il serait en fait suivi en permanence, qui
comme des animaux, puisque
pour info, parce que certains pourraient dire tout ça c'est du fantasme, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous raconter là. On est loin du fantasme quand on regarde ce qui se passe en Inde ou au Japon, où on parle finalement d'une opération de biométrie généralisée à toute la population, et on met la totalité de la population, et je n'ai pas cité la Chine, mais la totalité de la population indienne est mise sous surveillance par la biométrie, c'est-à-dire la capacité finalement d'identifier tout individu.
À l'endroit où il est.
À l'endroit où il peut se trouver. C'est-à-dire que la biométrie est là aussi. Nul ne pourra acheter, nul ne pourra vendre. Eh bien, quand vous aurez des opérations d'achat, et c'est une lutte contre les particularismes des religions qui existent en Inde, et surtout les religions chrétiennes, lorsque celles-ci, on veut les soumettre, je dirais, à l'hindouisme, à la seule religion hindouiste, et de faire en sorte d'évacuer toutes les minorités religieuses qui ne se conforment pas, je dirais, à la politique qui veut s'installer en Inde. Donc on est bien, je dirais, dans le développement de techniques qui vont être au service
d'une forme de dictature,
d'une forme de totalisation. Voilà, de totalisation. C'est la création de la nosphère que rêvait Teilhard de Chardin. C'est-à-dire qu'on met sous contrôle l'ensemble des cerveaux humains. Voilà.
C'est ça, oui, oui.
Pour qu'il n'y ait pas de dérive,
et
ni
si
de libre
possible,
arbitre.
On les miniaturisera pour que ça soit plus facile à transporter.
Un auditeur, un exorciste vous dira qu'un possédé a la force de 10 hommes normaux, car paraît-il, nous n'utilisons pas le 10e de nos possibilités. Dans le cas du possédé, c'est le diable qui fait agir les 9 dixièmes restants. Votre homme augmenté, c'est à peu près cela.
Oui, bonne comparaison.
Belle illustration.
Une auditrice, un conseil aux auditeurs, allez voir ce que dit Laurent Alexandre sur Internet, c'est effrayant.
Oui, mais Laurent...
Il a écrit un livre qui s'appelle « La guerre des intelligences » et en effet, on entre dans un univers cauchemardesque. Alors lui, il y croit. Il croit son propre cauchemar.
Oui, oui, mais il est quand même en retrait.
Oui.
Au début, il commençait par hier est né le bébé qui vivra 1000 ans. Ouais. Mais il commence à réfléchir parce qu'il dit ouh là là, je sais pas où est-ce qu'on va. Je ne sais pas où est-ce qu'on va.
Il y a un certain nombre de questions qu'en effet il formule avec circonspection et prudence, donc on ne va pas l'invectiver, et je crois à sa capacité lui aussi
d'analyse, il pousse
dans
un peu
sa propre conscience, il pousse très très loin le bouchon, et quand on lit son dernier livre, La guerre des intelligences, effectivement c'est l'univers des IA, enfin, voilà, la domination, la domestication de notre monde par les fameuses intelligences artificielles, et je mets des guillemets parce qu'encore une fois, tout ça c'est du système de calcul programmé par l'homme. C'est l'homme qui est l'auteur, même si nous avions évoqué
la capacité à l'intelligence d'appeler ça.
C'est un affront à l'intelligence que d'appeler intelligence. Parce que pour moi, l'intelligence, c'est celle du cœur. Voilà, c'est la définition que je donnerais. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? C'est celle, tout simplement, qui part du cœur. Et c'est, je pense à Salomon qui disait « Donne-moi un cœur intelligent ». Donne-moi la sagesse, un cœur intelligent. Et au fond, l'intelligence, ça passe également par toutes les dimensions qui ne sont pas de l'ordre du rationnel, de la dimension rationnelle dans laquelle on voudrait nous enfermer. On rêve la cité rationnelle, mais il faut vivre aussi la part de l'erreur, la part du libre-arbitre, la part, je dirais, d'incertitude, de limites qui sont propres à l'être humain et qui font finalement...
Oui, puis alors il y a les sentiments aussi qui jouent beaucoup, notre relation vis-à-vis des autres. Ça semble, un robot sera toujours un robot. Oui, il n'aura pas la sensibilité.
Même si on humanise le robot,
on peut lui donner des formes humaines comme.
Même si Isamov parlait de ce robot Andrew qui a cette sensibilité parce qu'il est artiste, il n'en demeurera pas moins qu'il est un robot. Et il n'y a rien d'humanité. Il n'y a pas d'humanité en lui. L'humanité, c'est cette dimension de la conscience, de l'émerveillement. Vous parliez tout à l'heure d'étonnement et d'émerveillement et puis d'éveil. Je crois que ça, c'est propre à la conscience et c'est pas celle du robot.
Oui, alors paraît-il qu'il y a maintenant des robots médecins et il manquera toujours à ces robots médecins la sensibilité qui peut exister et les liens affectifs qui sont fondamentaux dans le traitement des malades. Et il manquera toujours quelque chose, quoi. Oui. Il manquera que les médecins ont intérêt à aimer leurs malades. S'ils l'aiment plus leurs malades, eh bien, des robots feront mieux qu'eux. Hein.
Alors, oui, je converge avec vous. Je pense que la part de guérison, elle ne tient pas, je dirais, uniquement à l'aspect médicamentation, mais il y a une dimension aussi spirituelle. Moi, je crois à la dimension de la prière, de l'intercession, et ce sont des choses qu'il faut évoquer. Je dirais que le malade, certes, peut être aidé par la dimension que lui apporte la médicamentation pour l'aider à guérir, mais si vous avez un environnement qui vous porte et qui vous donne le moral de combattre votre maladie, vous survivez et vous allez survivre à votre maladie, vous allez la dépasser.
Oui, oui, c'est tout à fait... Qu'est-ce que...
Par rapport à ce que vous dites, je profite pour passer le message à un auditeur qui va faire un petit peu le lien. On a deux messages de questions qui sont parvenus d'auditeurs. L'immortalité est sélective quand on voit comment la ministre de la Santé s'acharne à vouloir faire mourir Vincent Lambert. Et il y avait une question précédemment qui demandait justement des nouvelles de Vincent Lambert. Voilà, c'était évoqué le fait que l'entourage...
Alors je peux en parler, je suis rémois. Donc au cœur du sujet, et c'est une réflexion que j'ai partagée à des amis autour de moi. Que savons-nous de la vie intérieure ? Je reviens encore à ce sujet, c'est le leitmotiv et le fil conducteur, mais que savons-nous de la conscience intérieure, de la vie intérieure ? Il se trouve que Vincent est comme emprisonné dans une cellule et il n'est pas en contact avec la nature. Il n'est pas en contact, on le laisse dans sa cellule, en quelque sorte, de sa chambre, sans
sans le stimuler sur le plan médical, sans le mettre en contact avec
le chant des oiseaux, avec le bruissement du vent dans les arbres. C'est le contact avec la création l'aiderait, c'est-à-dire aussi il est important de stimuler l'être humain. Que savons-nous de la vie intérieure? Il y a des tas de questions,
c'est qu'il est littéralement séquestré dans une chambre où il n'a rien à faire parce que il est aux soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est fait pour les gens qui sont en train de mourir. Il n'est pas en train de mourir. Ça fait 7 ans qu'il est en fin de vie.
Il y a ce témoignage que vous connaissez tous, et probablement je n'ai pas en mémoire ce livre qui a été écrit par une dame dont l'amour du mari, alors que cette femme...
Une femme m'a sauvée.
Voilà, c'est important de le citer. Et cette femme, quand son mari lui a exprimé, je crois, son émotion, s'est mise à pleurer.
Oui, quand on lui a dit qu'on allait mettre fin à ses jours.
Voilà, et ce qui semble s'être produit avec Vincent Lambert. Donc cette larme qui a coulé dans ses yeux a finalement été le départ d'un éveil. Elle est aujourd'hui revenue à la vie totale. Elle s'exprime parfaitement. J'ai eu l'occasion d'entendre son témoignage qui est tout à fait bouleversant et qui nous montre qu'il y a une part de vie intérieure. Voilà, même la personne qui est plongée dans le coma, dont on pourrait dire, alors là, il y a eu des choses tout à fait odieuses qui avaient été partagées. Il fallait réveiller, pincer. Donc je vais ici éviter d'exprimer dans les détails ce qui a été dit, mais il fallait absolument pincer pour réanimer cette femme. C'était absolument odieux. C'est-à-dire qu'on maltraite le corps pour dire, ben voilà, je vais vous démontrer qu'il est bien mort, ce corps. C'est absolument odieux. Et elle, on l'entendait, ce que l'on voulait exercer sur son corps. Donc, la vie intérieure était en elle. C'est ça qui est important. Et je suis persuadé que la conscience humaine ne se réduit donc pas à la matière uniquement, et qu'il y a que nous sommes qu'une enveloppe, en quelque sorte, un support, comme disait Bergson à propos du cerveau humain, c'est un support, c'est une enveloppe qui nous permet d'être en relation, en interface avec la matière, avec le monde réel, mais la vie intérieure existe.
Voilà. Oui, voilà. Il y a une personne qui était dans le coma à Abu Dhabi qui s'est réveillée au bout de 27 ans. Ouais. Nous arrivons au terme de
l'émission, alors je vais juste lire très rapidement un message avant les annonces, très rapide également. L'intelligence artificielle, cela n'existe pas. Tout ce qu'il y a dans un logiciel vient de l'intelligence d'un homme, c'est ce dont on a parlé. Et jamais de lui-même, un logiciel ne pourra concevoir quoi que ce soit, car il est incapable de prendre une initiative.
Alors, les annonces.
Voilà, petites annonces, nous avons 2 minutes. Le week-end prochain, le week-end de la Pentecôte, le 8, 9 et 10 juin, il y a le pèlerinage de Pentecôte de Chartres à Paris avec le thème « Servir la chrétienté ». N'oubliez pas de vous abonner au cahier Saint-Raphaël, 25 € par an pour 4 numéros pour 120 pages, à l'adresse donc maintenant connue des auditeurs, 2 route d'Équien, 62 360 Saint-Étienne au Mont. Le dernier numéro
à mon nom ou au nom
de la
CIM
ou du docteur Dickès, le dernier numéro sorti début avril a pour titre Satan, prince de ce monde. Je pense que ça fait un bon lien avec des points évoqués pendant cette émission.
Ça marche bien.
Voilà, et enfin, nous vous rappelons aussi un abonnement très intéressant, celui à la revue du CEP de Dominique Tasso. Pour 35 € par an, vous avez 4 numéros. Je vous rappelle l'adresse, 16 rue d'Auxerre, 89 460 à Bazarne.
Non, il faut donner les références du livre d'Éric Lemaitre.
Ah oui, c'est la moindre des choses.
Tous les auditeurs n'auront pas l'occasion de venir dans 15 jours le rencontrer sur le stand.
Vous pouvez aller sur le site internet.
Comment faire pour le commander?
Alors, pour le commander, c'est simple. Il suffit d'aller sur le site internet. Voilà, vous prenez les moteurs de recherche. Quant, par exemple, Quant. Vous allez sur le moteur de recherche, vous cherchez la déconstruction de l'homme. Je ne fais pas de publicité pour Google. Voilà, la déconstruction de l'homme. Et en consultant le site, vous aurez toutes les coordonnées pour commander le livre si vous n'avez pas l'occasion de me rencontrer. En tout cas, merci infiniment pour votre écoute.
Voilà, merci d'être venu. Donc, Éric Lemaitre, notre
merci
ami Alain
vous,
Didier.
Merci à vous de m'avoir.
Et bien sûr, notre ami Tasso qui résiste à tout.
Et nous nous retrouvons donc le 30 juin.
Nous nous retrouvons le 30 juin pour une émission de juste avant la période des vacances. Voilà.
Merci.
Que le bon Dieu vous bénisse.
Merci infiniment.
Merci.
Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Jean-Pierre Diques, assisté de Magali, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 2 juin 2019 de midi à 13h30 et réalisé par Adrien. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.